Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
h 36, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline. On va parler de l'Ukraine. La percée ukrainienne se poursuit. Aujourd'hui, le gouverneur de la région de Lugansk, jusqu'ici sous le contrôle des Russes, a revendiqué une percée. Mais du côté de Moscou, évidemment, Dmitri Peskov assure que les territoires vont rester russes pour toujours et que Moscou va regagner le terrain perdu. On fait le point avec Solène Boulan et je vous passe la parole ensuite.
Lors de son traditionnel briefing quotidien, le lieutenant général de l'armée russe Igor Konashenkov énonce les opérations en cours sur le front ukrainien. Derrière lui, des cartes militaires diffusées par Moscou. Au sud, dans la région de Kherson, où l'armée ukrainienne mène une contre-offensive depuis plusieurs semaines, les Russes ont reculé d'une quarantaine de kilomètres. La carte de la région de Kharkiv, située au nord-est du pays, montre, elle, que les Russes ont quasiment quitté la rive orientale de la rivière Oskil, dernière zone de la région qu'ils contrôlaient encore. Des éléments corroborés par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est exprimé hier dans la soirée.
L'armée ukrainienne progresse assez rapidement et puissamment dans le sud de notre pays, dans le cadre de l'opération de défense actuelle.
Zelensky assure que des dizaines de localités ont été libérées ces derniers jours dans les quatre régions annexées par la Russie en fin de semaine dernière. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, assure de son côté que Moscou allait regagner le terrain perdu.
Certains territoires seront repris. Nous continuerons à discuter avec la population là-bas qui souhaite vivre avec la Russie.
Le président russe Vladimir Poutine espère de son côté que la situation militaire dans les territoires annexés va se stabiliser, alors qu'il vient de faire de la centrale de Zaporijjia une propriété fédérale russe.
Voilà, on voit à travers ces explications que la situation est extraordinairement instable, Joseph Massescaron, en Ukraine. Des républiques annexées, donc potentiellement territoire russe, mais qui sont en permanence sous les poussées et la poussée de l'armée ukrainienne, et toujours le risque brandi par Vladimir Poutine et ses sbires de la menace nucléaire.
Je ne vais pas enlever à Karim ce qu'il va dire, parce que il dit souvent, là je pense qu'il le dirait à juste titre, c'est que c'est le moment précis où la parole doit être à la diplomatie. Mmh. On est bien d'accord. Ouais. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est le moment, justement, où nous attendons les diplomates. Mm-hmm. Parce que il est impensable que cette situation puisse continuer, proroger, sans qu'il y ait, évidemment, bien sûr, une riposte russe, et une riposte russe peut-être nucléaire, puisque c'était rappelé par les autorités américaines, n'importe quoi peut arriver. Mm-hmm. De même d'ailleurs qu'il était impensable dans l'autre sens, quand évidemment bien sûr les Russes gagnaient, étaient aux portes de Kiev, c'est exactement la même chose. Donc là il y a une situation pour la diplomatie. J'ajoute que sur les territoires, là je vais me faire lyncher sur Twitter, mais c'est pas grave, j'ai quand même une position, c'est que je ne considère pas que, par exemple, la Crimée soit un territoire intrinsèquement ukrainien. Je le dis franchement. De par son histoire, de par sa culture, de par sa géographie, de par son ethnographie, de par son mode de vie, je pense que ce n'est pas peut-être pas réellement une terre réellement totalement russe, mais en tout cas, c'est certainement pas une terre ukrainienne. Je dis parce que c'est en tout cas la manière dont Zelensky présente la guerre.
C'est votre avis.
Je peux le soutenir, mais vraiment pendant
des heures. Les Ukrainiens pensent le contraire, et vous le savez parfaitement.
Pardon ?
Les Ukrainiens pensent exactement le contraire.
Les Ukrainiens pensent exactement le contraire.
Ils veulent récupérer la Crimée et toutes les régions occupées. Voilà.
Bien sûr. L'histoire est un peu têtue.
Gaspard Ganzer, sur cette situation en Ukraine, offensive contre offensive, l'armée russe recule. Elle recule depuis des semaines déjà.
Quand on prend du recul et qu'on revient au début de l'histoire, c'est-à-dire au mois de février, quand Vladimir Poutine a déclenché cette guerre, on peut pas être saisi d'effroi. La moindre des choses, c'est de considérer que c'est pas du tout passé comme prévu pour Vladimir Poutine. Ce qui est intéressant, c'est que en France, on a eu tendance pendant une partie de l'opinion publique à admirer Vladimir Poutine. En disant, quand je travaillais avec François Hollande, on nous a beaucoup reproché, par exemple, d'avoir racheté plus exactement les bateaux de combat que Nicolas Sarkozy avait vendus à la Russie. On nous avait dit, oh, mais c'est lamentable, tous les candidats à l'élection présidentielle avaient critiqué François Hollande, mais la gauche aussi, Mélenchon avait critiqué Hollande, en disant mais il faut parler avec Poutine, Poutine ceci, Poutine cela. Puis après, Emmanuel Macron avait reçu, souvenez-vous, Vladimir Poutine en grande pompe à Versailles, c'est le seul qu'il a reçu à Versailles.
Et
Brégançon par la suite, etc. Et puis après, bon, c'est une phase d'adoration. Après, bon, quand il a déclenché la guerre en Ukraine, il n'y avait plus l'adoration, en tout cas, elle était rentrée, mais il y avait quand même la crainte. Il est quand même fort. Il est quand même, les gens disaient, il est quand même fort, il est redoutable, etc. Et on découvre quoi? C'est que bon, un, c'est pas un allié, c'est clairement un adversaire. Et deux, ça se passe pas exactement comme il aurait pu imaginer. Alors, il faut pas le sous-estimer non plus.
Non.
Mais en tout cas, sur le terrain militaire, ça se passe pas du tout comme il l'avait imaginé depuis le départ. Et on imagine les troupes russes, à qui on avait dit, les gars, c'est bon, c'est une histoire de 10 jours, vous allez mettre un petit coup de doigt comme ça dans les Ukrainiens, ils vont s'effondrer immédiatement et dans 3 jours on est à Kiev. C'est pas du tout passé comme ça. Donc on imagine que tu avais saisi par une forme de découragement et c'est ce qu'on appelle militairement une forme de débandade déjà.
Est-ce qu'on peut poser une question, c'est-à-dire que la situation et la force de l'armée ukrainienne montre que cette armée ukrainienne n'était pas si dépourvue en effet que l'on pensait,
oui, probablement,
et donc qu'elle était armée en effet et préparée par les Américains,
visiblement.
Et donc évidemment, à contrario, est-ce que Poutine n'avait pas raison de craindre une menace? Voilà.
En tout cas, il y avait.
Excusez-moi de poser cette question sous cette forme.
Il y a quelque chose de. Voilà. Je ne pense pas que les Ukrainiens allaient envahir la Russie, ça, je pense qu'il n'y avait pas de risque.
En revanche,
ce qui est certain, c'est que l'OTAN a quand même. Et les Américains, donc, ont énormément poussé leur avantage en Europe continentale bien avant, et ça, ça a été perçu comme une provocation par Poutine. Donc ça, c'est vrai, on n'est pas non plus collectivement, nous les Occidentaux, tout blancs sur le sujet.
Karim, un mot et on écoutera le patron du renseignement américain.
Par rapport à ce que disait Joseph, deux mots. D'abord, oui, je crois habituellement à la voie diplomatique, paradoxalement, dans le contexte, je n'y crois pas. Non.
Je
peux expliquer pourquoi, Joseph, parce que je pense qu'on a un Poutine qui est tellement aujourd'hui en difficulté que ce serait presque abdiquer et faire preuve d'acceptation d'une forme de défaite que de venir sur le terrain diplomatique et sur le dialogue aujourd'hui. Et en plus, on a un discours de Zelensky qui est un discours de va-t-en-guerre permanent. Donc, et je pense qu'il ne crée pas les conditions du dialogue. Quand on a eu des options de diplomatie et de dialogue, quand on était dans une position plus équilibrée, parce qu'il y a des moments où l'armée russe gagnait du terrain, des moments où on l'en perdait. Là, effectivement, mettre la question de la diplomatie au mieux pour dire il faut que ça cesse, parce que de part et d'autre, il y a des pertes de vie humaine, il y a des... Voilà, ok, mais là, je ne vois pas comment Poutine peut accepter de venir autour de la table alors qu'il a perdu des bastions.
Mais c'est lui qui appelle au cessez-le-feu. Vendredi, dans son discours sur la Place Rouge, il a appelé au cessez-le-feu. Oui, il a dit j'ai annexé les quatre régions, ça a été validé par des référendums que l'Occident qualifie de simulacre. Maintenant, on se met autour de la table pour le cessez-le-feu.
Mais est-ce que il faut faire la différence entre une posture et ce qu'il ressent en réalité. C'est un personnage complexe, Vladimir Poutine. C'est comme quand il dit, il faut pas céder à l'émotion. Quand on a, je crois que c'est Karpov, le président d'Azerbaïdjan, Kadyrov, qui dit.
Qui vient d'être nommé général d'ailleurs.
Voilà.
Par Poutine.
Il faut faire usage de l'arme nucléaire. Attendez, là, tout d'un coup, il apparaît comme étant celui qui va raisonner son ami qu'il a mis en place.
Allié.
Non, moi, très franchement, la question de la guerre, je suis d'accord, alors pour le coup, avec Joseph. Oui, Vladimir Poutine a la première et l'entière responsabilité, mais derrière, on ne peut pas faire abstraction d'une analyse sur les conditions qui l'ont amené aussi à se comporter de la sorte. Moi, j'en ai assez, parce qu'on n'a pas de voix européenne. Et d'autant plus, on n'a pas de voix française, on est dans la roue des Américains, on est en permanence sous l'égide de l'OTAN, qui, quelque part, se satisfait de cette situation.
J'aimerais qu'on écoute la voix du patron du renseignement américain, William Burns, c'est le patron de la CIA, il s'exprime assez rarement, il s'est exprimé à la télévision américaine. On va écouter ce qu'il dit avec attention, parce qu'il dit, attention, Poutine est dos au mur, il peut donc être très dangereux, ça peut le pousser à des extrêmes, et il dit que c'est un scénario à prendre très au sérieux. Écoutez-le.
Il doit être inquiet. Poutine dos au mur est dangereux et imprudent. Nous avons vu les hypothèses erronées qu'il a faites avant la guerre. Je pense qu'il fonde maintenant son approche sur des hypothèses tout aussi erronées, où il pense qu'il peut faire face aux Ukrainiens, aux États-Unis et à l'Occident.
Voilà pour William Burns, le patron de la CIA, Geoffroy Lejeune. a priori, quand le patron du renseignement américain, qui s'est assez peu trompé depuis le début, depuis le 24 février, ils nous ont prévenu, il y a 100 000 soldats amassés à la frontière. Non, nous, en Europe, on trouvait que tout était normal.
Ils se sont assez peu trompés.
Toute l'Europe s'est trompée sur la présence de ces soldats. Quand il dit, attention, Poutine, dangereux, il commet des erreurs, il est imprudent, il faut prendre ça très au sérieux.
Non, mais évidemment qu'il faut prendre ça très au sérieux, mais à cause de qui? Il est gentil ce monsieur, mais en fait, comme disait Gaspard tout à l'heure, les Américains ont, je veux dire, tout le monde sera d'accord ici pour dire que l'agresseur c'est Poutine, mais il y a un contexte avant Poutine, et en effet, les Occidentaux, en réalité les Européens, mais surtout les Américains, ont poussé leurs avantages et ont provoqué, en fait, il y avait des conférences de l'OTAN avec des dirigeants ukrainiens deux jours avant l'invasion de l'Ukraine, où ils commençaient à parler d'adhésion à l'OTAN, etc. C'était la ligne rouge de Poutine. Donc, il a été aussi acculé dans cette situation. Et l'invasion, c'est une réponse, injustifiable, mais en fait très compréhensible à cette situation de fait qui était avant le conflit. Mm-hmm. Ensuite, depuis le conflit, la vérité, c'est qu'en fait l'armée ukrainienne ou l'Ukraine, moi j'ai découvert d'ailleurs un nationalisme ukrainien à l'occasion, mais c'est quand même une guerre américaine également, le matériel, etc., la formation. Enfin bon, c'est et ensuite moi, ce qui me choque le plus, si vous voulez, et ça c'est pour ça que j'en veux un peu aux dirigeants occidentaux, aux dirigeants européens. Mm-hmm. Après qu'Emmanuel Macron a essayé de jouer le médiateur au début, quand il a vu que ça fonctionnait pas, on est rentré et principalement par la voix évidemment Zelensky mais surtout von der Leyen, on a complètement séquemment arrimé à la stratégie américaine sur le sujet. Mmh. Les Américains appellent cette guerre la guerre parfaite, c'est-à-dire que c'est une guerre qui se situe très loin de chez eux, grâce à laquelle ils font des bénéfices, des profits, parce qu'ils nous vendent du gaz liquéfié, etc. Ils savent très bien qu'on sera en situation de dépendance par rapport à eux, et où en plus ils réussissent à enfoncer un de leurs principaux rivaux, qui est Vladimir Poutine. À la fin, nous, on devrait pouvoir réfléchir en Européen, et moi je suis pas russe, mais je suis pas non plus américain, donc notre intérêt il est pas là-dedans, quoi. Pour toutes ces raisons, moi, je suis, depuis le début de ce conflit, dans les voix françaises, je me sens très proche de ce que dit Henri Guénaud. Henri Guénaud décrit, alors c'est dans la presse, dans des tribunes, etc., ou sur CNews, à votre micro, je crois, Charles-Lance, décrit une situation, une escalade tragique, et je pense qu'on est arrivé à la fin de la situation sur laquelle il essaye d'alerter depuis plusieurs semaines. C'est qu'on a un Poutine, certes, acculé à cause de sa déroute militaire, un Zelensky, vendredi dernier, il faut quand même constater ce qui s'est passé. On a Zelensky qui dit je ne négocierai jamais avec lui. Merci de pas parler en notre nom, parce qu'en fait nous on a d'autres intérêts que les siens. Ensuite il dit aux soldats russes on va vous tuer un par un. Et en face de ça, le même jour, Poutine qui explique que c'est en fait sa guerre est une déclaration, sa guerre militaire est une déclaration de guerre généralisée à l'Occident, et ce qu'il incarne et nos modèles de société, etc.
qui s'effondrent.
Ça s'appelle objectivement une surenchère tragique. Et donc à la fin la menace nucléaire, moi honnêtement oui, je la prends au sérieux.
Gaspard Ganzer.
Vraiment, je pense qu'on ne peut qu'avoir peur. En réalité, la peur n'effraie pas le danger. Donc, il faut être le plus rationnel face à celle-ci et trouver les moyens d'endiguer cette menace, comme on disait à l'époque de la guerre froide, parce que Poutine est de plus en plus humilié, parce qu'en fait, il a fait beaucoup d'erreurs stratégiques. Et chacune de ces erreurs stratégiques le conduit à un nouveau recul diplomatique, militaire et politique. Donc, il va falloir trouver une porte de sortie, paradoxalement, pour Vladimir Poutine. Alors, je ne sais pas laquelle cela peut être et qui peut lui offrir. On aurait aimé que ça soit...
Ce qu'il veut, c'est l'annexion des quatre territoires,
c'est pas
déplacer
possible.
Sa frontière là,
mais ça, c'est non.
Et
ça,
il dit
coup, c'est
on
non.
Négocie.
Donc ça, c'est pas possible. Donc évidemment, personne, ni les Occidentaux, ni les Américains, ni les Européens, ni les Ukrainiens, et encore moins les Ukrainiens, n'accepteront de valider l'annexion des territoires qu'ils considèrent comme ukrainiens. Donc le préalable, c'est plutôt le recul et une discussion sur ces territoires, la façon dont ils sont gérés, mais certainement pas de reconnaître une annexion qui a été faite par les armes en mépris du droit international. Mais peut-être si on dézoome, on passe sur les États-Unis. Franchement, pour aller dans le sens de ce que disait Geoffroy Lejeune, vraiment, les Européens peuvent s'en vouloir. Parce que ça fait 30 ans qu'on parle d'Europe, de la défense, et qu'on n'arrive pas véritablement à la construire. Comme on ne l'a pas fait, les Américains la font à notre place. L'Europe de la défense, elle existe. Aujourd'hui, elle s'appelle l'OTAN. Tout simplement. Et les Américains, eux, ils sont très efficaces. On a tendance à sous-estimer la puissance américaine.
Ah, mais je crois qu'ils contribuent à 70% à l'OTAN, déjà, financièrement.
Ils sont très forts. Ils ont le soft power culturel et cinématographique et technologique, merci nos téléphones et tout le reste, et la puissance militaire et diplomatique. Ceux qui avaient un peu tendance à prendre les Américains de haut, parce qu'ils trouvaient qu'Obama était pas très sérieux, que Trump était fou, ou que Biden était trop vieux, mais là, ils sont en train de se rendre compte qu'on va revenir dans une Pax Americana.
C'est vraiment ce que vous disiez, l'Europe de la défense, la grande absente, Karim Zeribi, depuis le début.
Les crises que nous venons de vivre,
l'Europe tout court,
ces trois dernières années, c'est quelque part l'échec de l'Union européenne, excusez-moi, telle que nous l'avons construite. Bon, je suis profondément européen, mais cette Europe-là, force est de constater que l'Europe de la recherche n'existe pas, l'Europe de l'énergie n'existe pas, l'Europe de la défense n'existe pas. On est sur des éléments stratégiques. Et aujourd'hui, on subit, avec l'absence de l'Europe de la recherche, les labos qui nous ont fait la danse du ventre au moment de la Covid. Donc, sur la question énergétique, on est dépendant.
On n'a toujours pas trouvé de vaccin, accessoirement. On n'a
toujours pas trouvé de vaccin.
C'est toujours les Américains.
On n'a aucune souveraineté européenne sur les questions énergétiques. Sur les questions de défense, on dépend de l'OTAN. Donc, très franchement, Montesquieu disait que lorsqu'il y a une guerre, il faut blâmer celui qui l'a déclenché, mais il faut aussi rechercher ceux qui ont créé les causes du déclenchement de cette guerre. Et je crois qu'aujourd'hui, on est revenu un peu au temps de la guerre froide. Pour moi, c'est un conflit américano-russe en réalité. Sous couvert, effectivement, d'une guerre qui a été déclenchée par Poutine en Ukraine. Et parfois, Zelensky, là au moins, et donc, il m'inquiète, voire parfois il me fait peur, c'est que j'ai l'impression que c'est un Ukrainien américain. On fait que dire, ils sont dans l'Europe, il va falloir mettre en place un processus accéléré, autre. Mais qu'il se comporte en Européen. Donc, l'intérêt de notre continent, ce n'est pas de s'enfoncer dans ce conflit. Bon. C'est d'en sortir à un moment donné de manière urgente. Or, les Américains ont envie que ce conflit s'enlise. C'est leur intérêt économique, c'est leur intérêt militaire, c'est leur intérêt à tous les niveaux. Ouais. Sortons de cette approche américaine, de cette mainmise américaine. Voilà. Il faut que l'Europe existe, à un moment donné, politiquement.
Aussi par l'inflation et la hausse des prix de l'énergie. Joseph Massescar.
Je reviens quand même à la question initiale. C'est d'ailleurs ce passage du directeur de la CIA. Mm-hmm. Poutine est au dos du mur. Pour qu'il accepte de parler, pour qu'il accepte de donner cet entretien, il faut vraiment que nous soyons extrêmement proches d'une situation qui est une situation, un point de non-retour. On a cité beaucoup d'auteurs. Il y a un auteur qu'on peut relire, c'est Giraudoux, « La guerre de Troie n'aura pas lieu ». Dans « La guerre de Troie n'aura pas lieu », jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au dialogue entre Ulysse et les personnes de Troie, jusqu'à la dernière scène, on est sur le point de dire, ben, finalement, on suit Giraudoux et peut-être que cette guerre de Troie n'aura pas lieu. Il faut rappeler quand même à ceux qui nous écoutent qu'il a fait ça en pensant évidemment, bien sûr, au conflit à la Deuxième Guerre mondiale et que penser que cette guerre, justement, lui, n'aurait pas lieu, puisque Giraudoux était diplomate. Et là, en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des forces que nous n'avons pas totalement mesurées qui souhaitent cette guerre? Je pose la question. Parce que peut-être qu'il y a des forces qui souhaitent cette guerre, en fait.
Quelles forces
qui souhaitent arriver à ce point, qui soit un point de non-retour. Peut-être qu'il y a des forces qui disent, ben finalement, là, il y a un certain nombre de choses qu'on a cru solides, que sur la mondialisation, sur la consommation, sur etc. Puis, franchement, c'est un peu vacillant aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui qu'il considère qu'il faut que cette guerre aille encore plus loin. Voilà, parce que on ne peut pas ne pas s'interroger quand même sur cette situation. Et franchement, je le dis, relisez Giraudoux, c'est très bien.
Oui, Gaspard Ganzer, un dernier mot sur cette situation.
Non, voilà. Ce qui est frappant, c'est l'irrationalité d'un côté et le cynisme de l'autre. Donc c'est vrai que l'irrationné de Poutine, qui en fait. C'est horrible à dire, mais la Russie n'est pas de taille face aux États-Unis. Il y a un rapport de 1 à 10, si ce n'est à 50, entre la puissance américaine et la puissance russe. Donc les Américains et les Ukrainiens vont gagner la guerre. Il n'y a pas d'autre issue possible. Mais il faut trouver une sortie pour Poutine. De l'autre côté, les Américains qui déroulent le rouleau compresseur. Et c'est pour ça que pas la France seule. C'est là, certainement la différence que j'aurais avec Guénaud et d'autres. Je pense que la France qui va s'en sortir seule en y trouvant une voie intermédiaire. Non, enfin, nous non plus, on n'est pas de taille.
On n'a plus la puissance, mais sinon.
Oui, non, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est sûr qu'on n'est pas capable de le faire seul. Il faut qu'on le fasse au niveau continental avec les autres Européens. En essayant d'inventer une voie médiane ou moyenne. On avait réussi à le faire au moment des accords de Minsk, parce que François Hollande avait pris Angela Merkel, ils étaient allés ensemble à l'Est. Ils avaient négocié avec Poutine et Porochenko, qui était le Zelensky de l'époque, qui est un peu plus diplomate, on va dire. Et on avait réussi à trouver un accord temporaire. Évidemment, celui-ci a été remis en cause. Mais je crois que la seule voie, c'est ça, c'est le coup franco-allemand, les Européens.
Mais l'Allemagne, Gaspard, moi, je ne sais pas si c'est possible.
À l'époque, c'était possible.
Le drame de l'Europe de la défense telle qu'elle nous est vendue depuis longtemps, ou même du couple franco-allemand en règle générale, c'est que les Allemands jouent pas dans le même camp que nous. En réalité, certes, ils sont européens, mais en réalité, ils sont complètement arrimés depuis la Seconde Guerre mondiale à l'OTAN.
Oui, mais ça peut les tirer vers nous aussi. Je suis d'accord, il faut les tirer vers nous.
Ils ont eu une très bonne occasion d'être tirés vers nous il y a très peu de temps. Ils ont augmenté, je crois, de 100 milliards d'euros leur budget pour la défense au tout début du conflit. Qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Ils ont acheté des avions américains.
C'est pas faux.
À ma connaissance, on fabrique des avions en France, très bien. C'est le groupe Dassault qui fait ça. Je suis d'accord avec vous sur le fait que ce sont des logiques qui dépassent le cadre strictement européen. En fait, Ça fait des années qu'on lit des géopolitologues dire que le grand affrontement qui vient, c'est celui entre la Chine et les États-Unis. Moi, la seule question pour répondre à la question de Joseph,
question,
c'est est-ce qu'on n'est pas en train de vivre le début de ce conflit sur l'Europe avec des morts qui sont qu'européens, avec des victimes qui ne sont qu'européens.
Et c'est bien affaire à suivre. Merci beaucoup, Geoffroy Lejeune, Joseph Massescaron, Gaspard Ganzer, Karim Zerebi. Dans un instant, sur Europe 1, c'est Europe Soir avec Raphaël Devolvé, Hélène Zellani. Et sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes. À demain.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur Europe 1.